Sud Radio.
Seul. Contre tous. Jean-Marie Bordry.
Bonjour à tous, vous êtes sur Sud Radio. Aujourd'hui dans Seul contre tous, on va parler de l'Europe. Vous le savez, la Grande-Bretagne va voter demain pour décider si elle sort, oui ou non, de l'Union Européenne. C'est la fameuse campagne sur le Brexit. Et bien voilà que ce référendum en Grande-Bretagne fait des émules en France. Marine Le Pen appelle à des référendums dans chaque pays d'Europe. Et oui, aujourd'hui, il y a ceux qui disent le Brexit c'est formidable, il faut que la France fasse pareil et sorte de l'Union Européenne. Et bien moi, aujourd'hui, je vous le dis, chers auditeurs, je ne suis absolument pas d'accord pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Europe, on a grandi dedans et que oui, la disparition des frontières entre les pays de l'Europe, c'est un acquis qu'il faut sauvegarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser des frontières. Et que oui aussi, on est plus fort ensemble que séparément. C'est pour ça que l'Europe est importante. Dernier point, si jamais effectivement les Britanniques décident, on le saura demain, si oui ou non ils quittent l'Europe, eh bien peut-être qu'une Europe sans les Britanniques, ça ressemblera plus à ce que les Français désirent, à une Europe moins libérale, à une Europe plus politique qui ferait moins d'économie et qui s'occuperait réellement des problèmes des gens. Autant de raisons qui font que moi aujourd'hui dans Seul contre tous, je dis que le Brexit à la française, c'est justement l'exemple à ne pas suivre. Alors d'accord, pas d'accord, vous connaissez le numéro chers auditeurs, 0826 300 300, venez nous dire à l'antenne ce que vous en pensez. Vous votez également sur sudradio.fr et vous laissez aussi vos messages et vos commentaires sur Facebook et Twitter, hashtag sudradio.
Seul.
Contre tous.
Contre tous.
Sud Radio.
Jean-Marie Bordry.
Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles ?
Alors vous avez reconnu bien sûr chers auditeurs la voix du général de Gaulle finalement qui n'était pas si pro-européen que ça et qui considérait que l'Europe était abstraite, que ça n'aboutissait à rien parce que il n'y avait pas de peuple et de nation européenne. Il n'empêche, il avait pris quelques bonnes décisions, le général de Gaulle, et c'est notamment lui qui s'était opposé à l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne à l'époque. Tant qu'il était au pouvoir, les Britanniques n'ont pas pu entrer. Eh bien c'est finalement cette erreur qu'ils vont rectifier demain si jamais les Britanniques décident de voter pour un Brexit et de quitter l'Europe. Moi, aujourd'hui, dans Seul contre tous, je dis que imiter les Anglais si jamais ils quittent l'Europe et faire un référendum sur la sortie de l'Union Européenne, c'est précisément l'exemple à ne pas suivre. Vous connaissez le principe de cette émission, chers auditeurs. Mes deux invités ne sont pas d'accord. Je vous les présente. Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine du Gard, et Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS, à Paris, également auteur du livre Souveraineté, Démocratie, Laïcité. C'est chez Michalon. Bonjour à tous les deux.
Oui, bonjour.
Alors, Gilbert Collard, je vais commencer par vous. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a pris position en disant qu'il fallait faire des référendums, comme sur le Brexit, dans chaque pays d'Europe et donc sur la France, parce que l'Europe était un projet, je la cite, totalitaire, et qu'il était temps que nous aussi, on en sorte. Totalitaire, Gilbert Collard, vous trouvez vraiment que c'est pas un peu fort ? Regardez, un des organes les plus puissants de l'Union Européenne, c'est le Parlement Européen. Si vous prenez le Front National, il s'est longtemps plaint, il se plaint toujours de ne pas être suffisamment représenté dans les institutions françaises nationales, notamment l'Assemblée, puisque vous êtes trois députés.
Et regardez,
deux députés plus un du. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je comptais Monsieur Bompard, mais et regardez le Parlement européen où le Front national est particulièrement bien représenté. Le Parlement européen est plus démocratique que l'Assemblée nationale française, Gilbert Collard.
Mais c'est une blague, c'est la Commission qui décide de tout, vous le savez très
bien. Elle décide pas de tout, Gilbert Collard.
Elle décide, mais écoutez. Reprenez les textes. Je crois qu'il faut arrêter. On a le droit d'être pour l'Europe, comme on a le droit de se suicider. C'est pas interdit. Bon, mais il faut avoir quand même l'honnêteté de dire la réalité juridique. Le Parlement européen n'a pratiquement pas de pouvoir. C'est la Commission qui décide de tout. Et malheureusement, quand les Français ont voté contre le traité de Maastricht.
Ils ont voté pour Maastricht. C'était en 92, c'était pour la monnaie.
Les Français ont voté pour, mais quand ils ont été interrogés par voie de référendum et qu'ils ont voté contre, Nicolas Sarkozy s'est précipité pour faire adopter la mesure. Donc les Français ont absolument le droit de s'exprimer de nouveau, puisqu'on leur a interdit de voir réaliser le vœu qu'ils avaient manifesté par décision.
référendaire.
Du suffrage, hein, et référendaire. Bon, donc il y a véritablement à un moment donné la nécessité de redonner la parole aux électeurs, et avec quand même une clarification, parce que on parlait du traité de Maastricht tout à l'heure. Franchement, vous l'aviez lu, vous ?
Le traité de Maastricht, c'était en 92, donc c'était, ouais, bon. J'étais quand même un petit peu jeune, vous m'accorderez.
Vous aviez quel âge ?
J'avais, écoutez, 92, c'est simple, j'avais 6 ans, comme ça, ça vous fait plaisir, vous pouvez oui, en bah, déduire écoutez, mon âge.
Bien qu'intelligent et précoce, vous ne pouviez pas le lire, mais je doute c'est fort que beaucoup de gens en âge de le lire aient pu se taper ce texte absolument incompréhensible, quoi, qui relève vraiment d'heures de lecture et d'éléments de compréhension. Bon, donc on a été dans une espèce de dynamique, hein, qui nous a fait peut-être aussi rêver, faut pas avoir peur de le dire, mais qui aujourd'hui se révèle être un cauchemar.
Alors, il n'est pas interdit de rêver, comme vous le dites, Gilbert Collard, puisqu'on parle de politique, on parle de l'avenir du pays et du continent, et donc de l'Europe. On va juste refaire un point pour préciser les choses. Vous aviez eu effectivement ce référendum en 1992 sur le traité de Maastricht. Ça a été très serré, les Français ont voté pour. Et vous avez eu ce référendum auquel vous faisiez également allusion, en fait, Gilbert Collard. C'était en 2005, où là, ça avait été beaucoup plus large. C'était sur le projet de constitution européenne. Effectivement, les Français ont voté contre à 55%. Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est bien de le rappeler. Effectivement, le même traité, ou presque le même traité, a été adopté par la France après les élections présidentielles. Mais ça, il faut quand même le préciser. C'est vrai qu'on n'a pas refait un référendum sur le même traité. Les Français avaient déjà répondu. Sauf que Nicolas Sarkozy, en 2007, il avait mis quoi dans ses promesses ? Il avait dit « Si je suis élu, je renégocierai et on fera passer ce traité ». On peut pas dire, Gilbert Collard, que ça, c'est une des promesses que Nicolas Sarkozy avait prises et qu'il n'a pas tenues. Parce que ça fait partie de ces promesses qui, en tout cas, ont été tenues par Nicolas Sarkozy. Et les Français qui ont voté pour lui, ont voté en connaissance de cause. Alors, je veux bien qu'il n'y ait pas eu de deuxième référendum.
Non, mais là.
Mais si, écoutez, un président qui se présente et qui applique ça.
Alors, tous les Français qui ont voté pour Hollande espéraient qu'il tienne ses promesses. Bon, là, Sarkozy a tenu pour une fois une promesse. Mais vous savez très bien que l'élection présidentielle, c'est l'adhésion à un homme. À un homme, on vote pour un homme, on vote pour ce qu'il représente, on vote pour les espoirs qu'il peut porter. Et souvent, l'analyse détaillée de son programme n'est pas un facteur déterminant, même si elle compte, dans l'adhésion. On ne peut pas dire que, en votant pour Nicolas Sarkozy, on avait en même temps voté pour que le référendum de 2005 soit révisé. Je crois qu'il ne faut pas abuser quand même.
Oui, c'est quand même un peu plus clair, si vous voulez, Gilbert Collard, permettez-moi. C'était quand même un peu plus clair, si vous voulez, que des petits caractères en italique au bas de 10 pages de contrat. Mais on votait quand même en connaissance de cause.
Même en admettant que vous auriez raison, ce que je ne crois pas, mais je peux dans le débat accepter la discussion. Ça change quoi à l'état où on est ?
Ça change quoi ?
Vous vous réfugiez dans une espèce de documentation livresque pour ne pas avoir à parler de la réalité, alors même que vous avez cité De Gaulle qui disait qu'on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. C'est l'Europe aujourd'hui, elle n'est pas béatifiée parce que Nicolas Sarkozy a volé, même s'il l'avait annoncé, la décision référendaire. Ce qui compte, c'est la réalité de l'Europe aujourd'hui.
Mais là, on est d'accord. Gilbert Collard, je veux bien si vous voulez que vous disiez finalement que j'ai envie de me suicider parce que je crois en l'Europe. Bon, ça, je vous laisse cette interprétation, mais pourquoi pas. Mais il n'empêche que tout le monde est d'accord sur le fait que le constat de l'Europe aujourd'hui, c'est une crise. Et peut-être que cette crise, finalement, elle trouvera une de ses solutions, même si vous ne serez pas d'accord tous les deux, elle trouvera une de ses solutions dans la sortie de la Grande-Bretagne. On est également avec Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Bonjour Jacques Sapir.
Bonjour.
Bon, Jacques Sapir, vous êtes économiste, il faut le préciser, tout l'enjeu aujourd'hui et un des principaux arguments de campagne en Grande-Bretagne, c'est finalement ceux qui disent, dans ceux qui veulent rester dans l'Union Européenne, David Cameron, notamment le Premier ministre, si jamais la Grande-Bretagne sort, ce sera un désastre économique. Vous n'y croyez pas ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et on voit très bien d'ailleurs que, admettons que la Grande-Bretagne se décide à voter pour la sortie, bien.
Il y a une chance sur deux.
Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne se passera strictement rien, sauf dans le domaine monétaire, parce que là, si vous voulez, dans le domaine plus exactement de la valeur de la livre par rapport aux autres monnaies, parce que là, on sait très bien qu'il y a toute une série d'opérateurs qui vont jouer la baisse de la livre, ce qui va faire perdre à la livre environ 20% de sa valeur, Par ailleurs, ça va donner à nouveau un coup d'accélérateur à l'industrie britannique et à la production britannique, mais ça, c'est un autre problème. Sur le fond, la Grande-Bretagne est un pays important au niveau de l'économie mondiale, et elle le restera, et il y aura des traités de libre-échange qui d'ailleurs existent d'ores et déjà, par exemple l'OMC, qui vont, d'une certaine manière, régler les différentes conditions de commerce entre la Grande-Bretagne et les autres pays. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, il ne faut jamais oublier que les pays de l'Union européenne, ils sont dans l'OMC, et que donc le fait de sortir de l'Union européenne ne vous fait pas sortir de l'OMC, et que vous restez dans l'OMC, et que donc vos règles de commerce continuent d'être, d'une certaine manière, réglées par l'OMC.
Alors c'est bien de préciser effectivement que ce sera pas forcément la fin du monde pour la Grande-Bretagne qui finalement a très bien existé pendant des décennies ou pendant des années en dehors de l'Union européenne. Il n'empêche, Jacques Sapir, vous dites qu'il y aura des traités de libre-échange, c'est plus que probable parce qu'on a besoin de faire du commerce avec la Grande-Bretagne. Si elle sort de l'Union européenne, il faudra quand même qu'on continue à travailler, ne serait-ce que pour nos entreprises qui ont besoin d'écouler leurs produits en Grande-Bretagne. Sauf que les traités de libre-échange, ça se négocie pas en un clin d'œil. Hein. On le voit aussi également en ce moment avec ce fameux traité de libre-échange transatlantique avec les États-Unis notamment.
Je vous arrête immédiatement pour dire ces traités existent déjà.
Ces traités existent.
Donc, l'OMC, c'est
qu'est-ce qui change finalement concrètement, parce qu'on n'est pas en libre-échange dans le cadre de l'OMC avec à peu près tout le monde. Vous avez de la concurrence déloyale et finalement vous
Chose différente. C'est une chose différente. L'OMC prévoit qu'il puisse y avoir des contentieux entre pays membres de l'OMC et a prévu une instance de règlement de ces conflits. Bon, évidemment. Et on sait très bien que aujourd'hui, toute une série de conflits viennent justement de réglementation non tarifaire, c'est-à-dire on va pas jouer sur les prix, on va pas jouer sur des droits de douane, on va jouer sur d'autres choses, par exemple des interdictions sanitaires, etc. Bon, et c'est ça qui peut, à un moment donné, poser problème. Mais, fondamentalement, on voit très bien que les règles de commerce de la Grande-Bretagne avec les pays européens ne seront absolument pas affectées par une sortie possible de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.
Alors, Jacques Sapir qui nous dit pour l'instant que tout ira très bien dans le meilleur des mondes pour la Grande-Bretagne, même si elle sort de l'Union européenne, sauf peut-être pour la valeur de sa monnaie qui va se dévaluer. Mais ça sera peut-être pas si mal que ça. Si jamais les Britanniques veulent continuer à exporter leurs produits, pourquoi pas, pourquoi pas. Il n'empêche que ça pose plein d'autres problèmes. Jacques Sapir, vous êtes économiste, mais vous avez énormément travaillé sur la notion de souveraineté. C'est là aussi qu'on pourra se retrouver avec Gilbert Collard pour discuter de souveraineté, parce que c'est tout l'enjeu finalement. Est-ce que la souveraineté du pouvoir, ça doit être à l'intérieur de la France et uniquement la France et la nation, ou est-ce que ça doit s'exercer à l'échelle de plusieurs États comme ça se fait en Europe? Moi, je crois que oui, finalement, et je crois que si on sortait de l'Union européenne, ce serait un sacré gâchis et ce serait le pire exemple à ne pas suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, chers auditeurs, parce que c'est à vous que ça s'adresse finalement? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la France ne doit surtout pas faire comme la Grande-Bretagne et faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec mes deux invités qui pensent qu'au contraire, il faut faire un référendum et que plus vite on en sortira, mieux on se portera? Vous votez également sur sudradio.fr. Pour l'instant, je dois bien le dire, vous êtes 79% à n'être pas d'accord avec moi. Vous soutenez mes deux invités qui considèrent finalement qu'il faudrait que la France ait son référendum pour sortir de l'Union européenne. On se retrouve après une courte pause.
Sud Radio. Seul contre tous. Jean-Marie Bordry.
Et sortir de l'Europe, c'est l'exemple britannique à ne pas suivre. Vous le savez, les Britanniques votent demain. Aujourd'hui, je dis qu'il faut surtout pas faire de référendum en France, contrairement à ce que pensent nos deux invités, Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, et également Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine, élu dans le département du Gard. Gilbert Collard, on parlait justement de la souveraineté, puisque c'est tout l'enjeu. Est-ce que finalement le pouvoir doit s'exercer à l'intérieur d'un seul pays, ou est-ce qu'on peut considérer que pourquoi pas, eh bien, on pourrait avoir quelqu'un qui décide, un organe élu comme un Parlement européen, qui prend des décisions, ne vous en déplaise, Gilbert Collard, et qui pourrait décider pour la France, mais aussi pour l'Allemagne et aussi pour la Grande-Bretagne. Pourquoi ça ne serait pas légitime?
Écoutez, d'abord, je trouve un peu étonnant que, démocrate comme vous l'êtes, vous ayez peur du peuple.
Oui, elle est facile, mais j'attendais celle-là. Mais pourquoi pas?
Mais
c'est vrai, je peux comprendre.
Non, mais il est normal que vous l'attendiez, parce que c'est une question évidente. Si vraiment l'Europe, sur l'oreiller duquel vous faites vos rêves, était ce narcotique apaisant, pourquoi craindre que le peuple donne son avis ? Moi, je vois vraiment pas pour quel motif on empêcherait le peuple de s'exprimer. Alors là, la première observation que je fais à ceux qui crient l'Europe est une chose magnifique et qui ne veulent pas que le peuple se prononce, c'est qu'ils sont quelque part des tartuffes, parce qu'ils savent très bien que cette Europe-là, le peuple n'en veut plus, parce que le peuple souffre. Alors, pour répondre à la question de la souveraineté, elle est où notre souveraineté ? On n'a plus de souveraineté monétaire, on n'a plus de souveraineté budgétaire, on n'a plus de souveraineté frontalière, on n'a plus de souveraineté des tribunaux qui sont obligés de se soumettre à l'institution juridique européenne. On ne décide plus de rien. Quand Schengen a été installé et qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'évolution des dangers qui pesaient sur nous, malgré les alertes.
On reviendra sur les, si vous le permettez, on reviendra sur les frontières tout à l'heure.
Mais bien sûr, mais c'est un aspect réel de la souveraineté. Bon, on subit, quoi. Moi, je vois au Parlement, on passe notre temps à adopter et à adapter des consignes, il n'y a pas d'autre mot, européennes. Le Parlement est devenu une espèce de chambre d'enregistrement des décisions européennes. On est dépossédé de notre souveraineté et je comprends pas qu'un homme libre ne s'en rende pas compte. On est soumis au diktat de la Commission. Alors après, vous dites qu'il y a le Parlement, mais allez interroger des députés européens, ils vous expliqueront comment fonctionne le Parlement. Tout est imposé. Et alors, ce qui est pire que tout, et je crois qu'un jour, ça sera vraiment le débat qui s'ouvrira, c'est que cette Europe qui aurait pu être un rêve réalisé, elle est devenue une banque. Une banque, tout est affaire d'argent et de redistribution aux mains d'individus qu'on ne contrôle pas. Et on apprendra un jour, à mon avis, que l'Europe est devenue une espèce de machine à financiariser avec des intérêts qu'on n'arrive pas à deviner, à voir, et qui nous mettent véritablement en esclavage économique, politique, identitaire, frontalier. Et ça a trop duré, les peuples en ont assez.
Alors justement, il y a un élément de réponse, et c'est aussi pour ça que je pense que ce serait peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça, que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe, c'est que finalement, quel est le pays où la finance est le plus important en Europe, quel est le pays européen où la finance est la plus puissante, c'est la Grande-Bretagne. Et effectivement, ce pays a du poids dans l'Europe et sur les décisions européennes, et donc pourquoi pas finalement laisser la City de Londres décider pour elle-même sans qu'elle interfère trop dans les décisions européennes. Je pense que finalement, ce fameux monstre financier dont vous parlez, Gilbert Collard, eh bien, commencerait à s'adoucir assez nettement.
Mais vous y croyez
nettement.
Donc
Je crois en quoi ? Vous me demandez si je crois en Brexit, on a une chance sur deux, personne
non,
ne
non,
le sait.
Non,
la Grande-Bretagne...
Vous venez de parler d'un monstre financier.
Non, je parlais de votre monstre financier. Effectivement, on est tous d'accord là-dessus, et c'est pour ça que je ne suis pas non plus au pays des bisounours, que la finance et effectivement la mondialisation financière ont un impact de plus en plus important sur nos politiques.
Bon,
ça, c'est
bon,
vrai.
Bon,
mais c'est
bon.
Vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour les États-Unis qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, dire que tout ça vient de l'Union européenne, c'est là que je ne suis pas d'accord.
Non, mais sauf que, si je peux me permettre, vous omettez un élément énorme, c'est que cette financiarisation, elle a une structure.
Elle a une structure
européenne qui dépasse les pays qui sont dans l'Europe et qui décide au-delà d'eux et à leur place. Voilà l'essentiel.
Il y a plusieurs décisions économiques, si vous voulez, Gilbert Collard. Par exemple, vous avez parlé de la souveraineté budgétaire tout à l'heure. Vous avez parlé et vous faisiez allusion de cette fameuse règle des 3% où vous n'avez pas le droit d'avoir un déficit de l'État qui représente plus de 3% de votre PIB. C'est vrai, ça c'est la règle établie, sur laquelle l'Europe d'ailleurs est en train de revenir, mais qui est imposée par l'Union européenne. Là-dessus, on est tous d'accord. Sauf qu'elle vient d'où, cette Europe ? Cette règle des 3%, elle n'a pas été créée dans le bureau d'un petit fonctionnaire en costume gris à Bruxelles, non ? Elle est inspirée de quoi ? Elle est inspirée du gouvernement de François Mitterrand au début début des années 80. C'était une règle française.
Ils n'ont jamais très su pourquoi ils avaient adopté ce quota. Hein.
Ils l'ont expliqué parce qu'à l'époque, vous aviez un chiffre à peu près à la louche qui considérait à 100 millions de francs. Donc on est tout à fait d'accord, mais c'est une règle. Voilà. Mais ce n'est pas une règle européenne, si vous voulez. C'est un symbole. C'est un symbole de l'austérité budgétaire qui a été choisi effectivement comme politique.
Comment ça, c'est pas une règle européenne ? Elle n'est pas imposée par l'Europe, cette règle ?
Si, je vous dis qu'elle ne vient pas de l'Europe. Je vous dis qu'elle vient de la France et que le problème était en France. Donc ce n'est pas l'Europe la source de tous nos problèmes, Gilbert Collin, si vous permettez.
Là, il faut être de bonne foi quand même. Bon, vous dites, Mitterrand a eu une idée. Bon, l'Europe l'a adoptée. Elle est maintenant imposée par l'Europe.
Mais on est tout à fait d'accord. Mais ça veut dire qu'il peut en revenir, Gilbert Collin. Si l'idée vient de l'État français,
imposer des sanctions.
Et quand l'État français, quand le gouvernement français, Gilbert Collin, permettez, quand le gouvernement, parce qu'après on redonnera la parole à Jacques Sapir, mais quand le gouvernement français, quand le gouvernement français a une idée et qu'il l'applique, vous avez jamais demandé à l'époque de François Mitterrand à dissoudre l'État français qui pourtant avait inventé cette règle des 3%. Pourquoi vous demandez à dissoudre l'Union européenne aujourd'hui, qui elle impose exactement aux autres pays la règle des 3%. C'est comme si vous aviez un bébé qui attrape une pneumonie, vous voulez amputé de la tête, c'est un petit peu fort.
Vous auriez voulu qu'à l'époque on demandât la démission de François Mitterrand parce que son gouvernement, à travers des élucubrations mathématiques absolument incernables, avait eu l'idée de cette règle des 3%, que l'Europe, qui nous dit qu'il n'y a pas eu entente du reste entre Mitterrand et les instances européennes du reste, hein, et cette règle qui est maintenant un carcan pour les pays, qui est imposée par l'Europe, qui est sanctionnée par l'Europe, vous dites que ce n'est pas une mesure européenne ?
On dit que ce n'est pas une mesure européenne, je dis que ce n'est pas une mesure européenne. Pourquoi ? Parce que vous dites que tout ça vient de fonctionnaires de l'institution européenne, et moi je dis aussi que cette règle, elle est imposée par plusieurs États membres, et que si Angela Merkel, la chancelière allemande, décide d'une règle comme ça, c'est aussi parce que la France ne pèse pas suffisamment fort à l'intérieur des institutions européennes. Et ça, c'est la faute des Français, et pas forcément la faute des fonctionnaires bruxellois qui auraient eu l'idée comme ça de comploter pour que la France soit toujours celle qui perd les arbitrages et que l'Allemagne soit toujours celle qui les gagne. Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, vous êtes économiste finalement. Est-ce que vous ne croyez pas, malgré tout, aujourd'hui tout le monde est d'accord que l'Union européenne applique une politique libérale et que c'est effectivement ce que Gilbert Collard appelle le diktat ou alors la doxa, tout ce qu'on veut, il n'empêche que c'est la politique qui est adoptée. Mais pourquoi on ne peut pas envisager qu'un jour on transpose une autre politique que celle qui est appliquée actuellement mais à l'échelle des institutions européennes ? C'est impossible de rêver d'une Europe qui ne serait pas libérale ?
Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les règles de politique doivent être adoptées à l'unanimité ou en tous les cas à une très forte majorité. Et on voit très bien que, par exemple, si les électeurs français ou les électeurs italiens prenaient d'autres choix en matière de politique économique, ils se heurteraient là, immédiatement, à, je dirais, l'inertie du système européen. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, et il faut quand même là avoir l'honnêteté et de le reconnaître, c'est que l'ensemble du système économique européen est aujourd'hui effectivement dicté par la finance, ou plus précisément, parce que, si vous voulez, la finance est quelque chose d'impersonnel et je ne crois pas en des décisions qui sont prises par des choses impersonnelles, je crois qu'il y a toujours des individus. Mais regardez tout simplement qui est M. Juncker.
Effectivement, c'était le Premier ministre du Luxembourg qui est un paradis fiscal.
Mais il faut savoir que le frère de M. Juncker est le dirigeant de l'un des plus grands fonds d'investissement qui est justement basé au Luxembourg. Et on peut, d'une certaine manière, multiplier cela et on peut tout simplement regarder ce qui est extrêmement important. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, pour des raisons à la fois d'intérêt personnel, mais aussi pour des raisons idéologiques qu'il ne faut pas non plus négliger, vous avez un choix qui a été fait vers le libéralisme ou le néolibéralisme par les institutions de Bruxelles et qui revient cette fois-ci sous une forme de contrainte sur les gouvernements nationaux. Ça, si vous voulez, moi je l'ai vécu quand j'ai travaillé à Bruxelles, et l'on voit très souvent que vous avez des décisions qui sont prises d'ailleurs dans des cénacles qui sont assez peu connus, qui sont des groupes de travail de la Commission européenne, et après on vous dit, ben voilà, on va faire entériner la décision de ce groupe de travail par la Commission, et donc, eh bien, les différents pays devront plus ou moins s'y plier. Alors, bien sûr, il y a des grands pays qui peuvent, à certains moments,
s'y opposer. Et la France en fait partie.
De moins en moins.
Il faut, de moins il en moins, oui, mais c'est la faute de la France. Oui, mais si, mais c'est la faute de la France. C'est la faute de la France si elle ne pèse pas politiquement.
Ce n'est pas la faute du gouvernement français. La France se retrouve face à une alliance de l'Allemagne et de toute une série d'autres pays.
Et de la Grande-Bretagne.
Qui, là-dessus, justement, ont des intérêts divergents. Et ceci, d'une certaine manière, fait apparaître une chose. C'est que, évidemment, les intérêts des différents pays sont divergents. Mais ça, il faut le reconnaître et il faut en tirer, justement, la conclusion et de dire, puisqu'il y a des intérêts divergents, il n'est pas possible de fonctionner comme une fédération. Il faut que l'on fonctionne, à ce moment-là, comme une confédération, c'est-à-dire que l'on redonne d'une certaine manière le pouvoir aux gouvernements nationaux, quitte à ce que ces gouvernements nationaux se décident de passer des accords de coopération et de coordination sur toute une série de points. Vous savez, d'un point de vue économique, il y a quelque chose d'extrêmement important. Quels sont aujourd'hui les principaux fleurons de ce que l'on appelle l'Europe ? Ce sont tous des projets qui ont été décidées et mises en œuvre dans un cadre de coopération intergouvernementale et dans lesquelles, que ce soit le marché commun ou que ce soit l'Union européenne, n'ont eu strictement aucun rôle. C'est Airbus, c'est le CERN, si vous voulez, c'est Ariane, mais chaque fois vous avez eu un accord entre des gouvernements, désignant d'ailleurs un maître d'œuvre. Par exemple, dans le cas d'Ariane, le maître d'œuvre était clairement indiqué comme étant la France. Bon, et chaque fois, c'est parce qu'il y a eu ces accords de coopération intergouvernementale que l'on a pu faire avancer les choses. Aujourd'hui, chaque fois que vous avez des décisions qui sont prises au niveau de la Commission, donc qui sont prises d'une certaine manière, de manière communautaire, eh bien, ce sont des décisions qui aboutissent à des catastrophes. L'un des meilleurs exemples, c'est la directive sur les services publics, directive qui nous a obligés aujourd'hui à séparer, par exemple, dans le domaine de l'électricité, la production de l'électricité du transport de l'électricité, même chose dans le domaine des chemins de fer, et on voit que en réalité, en séparant ces deux activités, on affaiblit considérablement l'activité de transport, si vous voulez, par rapport à l'activité réelle de production de services, et que cela se traduit par un effondrement de la qualité des infrastructures. Alors, bien entendu...
On va revenir parce que vous avez parlé de plusieurs éléments. Effectivement, vous citiez, et vous avez raison, Jean-Claude Juncker, le Premier ministre, ou plutôt l'ancien Premier ministre du Luxembourg, paradis fiscal, et dont le frère a un poste important dans la finance. Mais alors, le fait de retrouver des dirigeants politiques qui ont un lien avec la finance, ça, c'est pas l'apanage de l'Union européenne. Vous regardez Emmanuel Macron, il est passé par la banque Rothschild, c'est la finance, il est ministre du gouvernement français. Et ça, c'est pas un fonctionnaire européen, Emmanuel Macron. C'est un ministre français. Donc, dire que la finance a un poids trop important, vous avez le droit de le dire, dans l'Union européenne et dans les institutions européennes, pourquoi pas? Mais dire que ce poids existe exclusivement en Europe.
Je n'ai jamais dit que ce poids.
C'est vrai, vous l'avez pas dit, mais dire que c'est la faute de l'Europe.
Je n'ai jamais dit que ce poids existait exclusivement au niveau européen. Je dis simplement qu'il est structurellement beaucoup plus fort au niveau européen que dans les États, en tout cas que dans certains de ces États, je mettrai de côté évidemment la question du Luxembourg, il est structurellement beaucoup plus fort au niveau européen que dans les États, et que d'une certaine manière, cette structure particulière de la gouvernance a un impact extrêmement négatif sur le comportement des gouvernements, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, etc. Bon, donc ça, c'est un problème qui est tout à fait réel, et on ne peut pas utiliser de ce point de vue-là le cas de M. Macron. Oui, bien sûr, on sait, il a été banquier d'affaires, mais on ne peut pas utiliser ce cas. D'ailleurs, si vous voulez remonter plus loin, on pourrait considérer que Georges Pompidou aussi venait de la finance. Sauf que c'était une finance qui était à l'époque extrêmement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître. Bien.
Ça, c'est vrai. Non, mais le monde a changé. On est d'accord, si vous voulez, Jacques Sapir. Mais il y a plusieurs choses. Je dois vous interrompre parce qu'on va devoir faire une courte pause dans pas longtemps.
Il y a une structure qui existe au niveau européen et qui s'impose de manière absolument contraignante sur les différents pays.
Donc vous, vous dites que les institutions européennes finalement produisent un poids de la finance qui est trop important et que c'est à cause de l'architecture européenne. Pourquoi pas ? Moi, je pense quand même que si le problème, c'est la finance et si le problème, c'est les liens des dirigeants européens avec la finance, eh bien dans ce cas-là, il n'est pas interdit aussi que la France s'oppose à la nomination d'un homme comme Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Et pourquoi pas d'ailleurs ? Parce que la France avait son mot à dire là-dessus. Elle aurait très bien pu le faire. Donc si la France n'a pas mis son veto, c'est bien que le gouvernement français, lui, était d'accord. Et ça, c'est pas forcément la faute de Bruxelles. Dans quelques instants, après une courte pause, on va parler aussi de cet aspect des frontières, puisque c'est un des sujets de débat les plus passionnés en ce moment sur tout ce qui touche à l'Europe. Vous avez les accords de Schengen qui font que on n'a plus besoin de passer par la douane quand on passe de la France à l'Italie ou de la France à l'Espagne. Aujourd'hui, avec la menace terroriste, on est en train de revenir sur cet acquis. Moi, je pense que c'est pas du tout la faute de l'Europe s'il n'y a plus de frontières entre la France et l'Espagne, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une frontière importante entre la France et l'Espagne. En revanche, les gouvernements européens et les institutions européennes devraient plutôt renforcer les frontières extérieures de l'Europe. Et là, c'est aussi notre faute si finalement les Grecs se retrouvent bien seuls pour endiguer les flux migratoires dans la mer Égée. Est-ce que vous pensez finalement, comme mes deux invités, qu'il faut sortir de l'Union européenne et qu'il faut faire un référendum 0826-300-300? Est-ce que vous pensez plutôt comme moi qu'au contraire, il ne faut pas faire comme les Britanniques et il faut profiter de la possible sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? 0826-300-300, vous continuez à voter sur sudradio.fr. Vous êtes toujours très majoritairement pour la sortie de l'Union européenne, 78% d'entre vous. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio.
Seul contre tous.
Seul contre tous. Jean-Marie Bordry.
Il ne faut surtout pas suivre l'exemple des Britanniques qui vont faire un référendum pour la sortie ou non de l'Union européenne demain. C'est la position que je défends aujourd'hui dans Seul contre tous. D'accord avec moi, pas d'accord. 0826-300-300. Vous votez également sur sudradio.fr. On est avec Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. On est également avec Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine dans le Gard. Gilbert Collard, on parlait des frontières parce que c'est un aspect important de l'Union européenne et effectivement, c'est un progrès. Alors, pour ceux qui pensent que c'est une bonne chose, que d'avoir supprimé la frontière entre la France et l'Espagne, parce que c'était une bonne occasion, finalement, de faciliter non seulement, pas seulement le tourisme, mais aussi de faciliter les échanges économiques. Ah oui, Gilbert Collard, si aujourd'hui on a des problèmes de sécurité, parce que vous avez dit que je suis un bisounours et que finalement...
Non, je ne me permettrai pas.
Je vous en prie. Si on a des problèmes de sécurité...
Je vous trouve très lucide, au contraire.
On est tout à fait d'accord, bien sûr. Sous narcotique, sûrement. Si, Gilbert Collard, on a des problèmes de sécurité, si effectivement on n'arrive pas à arrêter suffisamment d'éléments qui reviennent notamment de Syrie, puisque c'est le débat qui est particulièrement sérieux et qui est particulièrement inquiétant et qui a lieu aujourd'hui. C'est pas forcément parce que l'Europe a supprimé les frontières entre la France et l'Italie, c'est plutôt parce qu'elle ne les a pas renforcées à l'extérieur de l'Europe et notamment entre la Grèce et la Turquie. Alors là, je suis d'accord avec vous, c'est aussi la faute des institutions européennes, mais il faut quand même rajouter que c'est aussi la faute des États membres européens qui préfèrent négocier un accord avec la Turquie plutôt que de dire, eh bien écoutez, l'Allemagne fournira beaucoup plus de moyens à la Grèce, la France fournira beaucoup plus de moyens à la Grèce, puisque la frontière de l'Europe, elle est en Grèce aujourd'hui, et puis elle est plus au tunnel du Mont-Blanc, c'est tout.
Ben vous avez tout dit. Hein. Je crois que vous venez de faire le réquisitoire définitif.
Hein. Oui, mais le réquisitoire de qui ? Le réquisitoire de l'Union européenne ? Non, parce que là vous êtes un peu de mauvaise foi, si je peux me permettre.
Je vais essayer de démontrer que je suis de bonne foi.
Allez-y.
Vous venez de dire, si j'ai bien entendu, j'ai pas noté le mot à mot, que si les frontières ne sont pas en état, c'est parce que les pays membres de l'Europe n'ont pas fait l'effort nécessaire, laissant tout reposer finalement sur un accord de maître chanteur entre l'Europe et la Turquie. D'accord ?
Là-dessus, on est d'accord. Un accord qui a été décidé par l'Allemagne et pas par les institutions européennes, décidant
à notre place. Bon,
François Hollande.
Mais pourquoi toujours taper sur l'Europe et pas sur la France ? Quand on a Fantomas comme président de la République, il ne faut pas s'étonner. Bon, mais mettons ça de côté. Votre diagnostic est intéressant parce qu'il est le poison de votre argumentation. Il n'y a pas d'Europe. Il y a de l'Europe que pour le fric. Dès l'instant où on a des problèmes à résoudre, et Dieu sait que le problème des frontières avec les attentats terroristes est un problème vital, on ne le règle pas. On ne le règle pas. Personne ne peut s'entendre, s'accorder, se sacrifier, se dévouer, se mobiliser.
C'est vrai, ce sont, les fameux sommets européens qui durent des heures et des jours, réunions et réunions, voilà, où les chefs de gouvernement ne se mettent pas d'accord. Et ça, c'est la faute des chefs de gouvernement qui n'ont pas de responsabilité.
Non mais d'accord, votre argument, tout à l'heure, M. Sapir, vous le rappelez en parlant de la structure de gouvernance de l'Europe. Bon, nos chefs d'État ne pèsent plus rien.
Sur les frontières, si. Et sur les frontières, si. Sur les moyens, si. Sur l'argent qu'on rajoute à la Grèce, ça, c'est la décision de la France et des autres pays. Et quand il y en a un qui veut pas, eh bien on n'arrive pas à le forcer parce qu'on ne pèse pas assez fort.
Eh ben voilà, mais donc ça sert à quoi cette Europe qui,
et si on ne pèse pas assez fort, c'est notre faute, on est le deuxième pays de l'Union européenne. On est le deuxième pays.
Quand vous aurez pendant des semaines de micro dit c'est notre faute, on est bon à rien, on est des nuls, ça sert à quoi?
Je peux concevoir, Gilbert Collard, que c'est plus confortable pour vous de dire c'est la faute des autres, les Européens qui sont bons à rien, parce que nous on est très forts et puis on est victime d'un complot finalement de fonctionnaires.
On n'est pas en Europe.
C'est quand même trop facile.
On n'est pas en Europe, nous.
On est en Europe. Et quand je disais l'Europe, vous savez que je parlais des Européens, je parlais des fonctionnaires européens. J'ai fait un raccourci. Il n'y a pas de complot qui fait que la France se retrouve toujours à la croisée des chemins et que la France se fait toujours avoir. Et si nos diplomates, et si nos ministres des Affaires européennes, et si notre président de la République ne pèse pas assez sur les décisions européennes, vous avez appelé François Hollande Fantomas, c'est d'abord la faute de François Hollande. Et c'est pas toujours la faute d'une institution qui n'est pas parfaite, parce que j'ai jamais dit qu'elle était parfaite.
Mais si l'Europe ne nous avait pas à ce point affaibli. Si nous n'avions pas, mais bien sûr, affaibli.
Et pourquoi ça a affaibli? Pourquoi on n'a pas affaibli Angela Merkel dans ce cas-là?
Mais parce
pourquoi ça profite aux autres et pas à nous?
Mais parce que Angela Merkel joue son jeu.
Et oui, pourquoi elle on joue est pas elle est, question, Gilbert Collard.
Parce que l'Europe est.
Parce que l'architecture est dessinée contre nous.
Mais non,
c'est ça que
l'Europe. L'Europe est le rendez-vous des égoïsmes. Voilà.
Et pourquoi, alors, dans ce cas-là, l'égoïsme français ne l'emporte pas sur l'égoïsme allemand?
Mais si cette Europe que vous souhaitez, c'est l'Europe du plus violent dans l'égoïsme, bravo! Bravo. Alors c'est vrai que nos gouvernants, vous avez raison, je vous le concède, ont des responsabilités qui n'ont pas de tonus, qui sont somnolents, qu'on se fait avoir chaque fois par l'Allemagne, que on est dépassé. Mais en même temps, si c'est l'Europe du plus fort, du plus gueulant, du plus puissant, monétairement, financièrement, économiquement. Ça sert à quoi cette espèce d'Europe fraternelle que vous semblez chanter à votre micro?
Et du moment qu'il y a une fraternité entre les peuples et que finalement on s'engueule, comme vous le dites, à l'intérieur des négociations de gouvernement à gouvernement, écoutez, c'est pas dérangeant. Du moment que ça se passe en coulisses et que
mais
le résultat est là. Et
oui,
là, pour le coup, oui, on n'est quand même pas en guerre finalement avec nos pays voisins européens, Gilbert Collard. Donc il y a quand même eu des progrès.
Non, mais je ne vous ai jamais dit qu'on était en guerre avec nos pays voisins.
On donnera la parole. Non, mais vous dites qu'il n'y a plus de fraternité à vous entendre. On est presque en guerre civile européenne.
Mais c'est pas moi qui le dis.
On va donner la parole à Jacques Sapir dans quelques instants.
Non, mais c'est vous qui venez de
le
dire.
Oui, j'ai caricaturé un peu votre raisonnement. C'est vrai, un peu. Mais quand on vous écoute, c'est un peu ce qu'on a, c'est l'impression que vous donnez.
Non, je caricature pas, moi. Si c'est en réalité, vous voulez pas avoir le nez rouge, c'est tout. Et pourtant, on le voit. Hein.
On donnera la parole dans quelques instants à Jacques Sapir, finalement, qui nous demandera et qui nous dira si la France est irréprochable, finalement, dans cette architecture européenne qui n'est pas très favorable à notre pays. Actuellement, on se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio.
Seul contre tous.
Seul contre tous. Jean-Marie Bordry.
Et faire un référendum pour menacer de quitter l'Union européenne comme les Britanniques, eh bien c'est l'exemple à ne pas suivre. C'est la position que je défends aujourd'hui dans Seul contre tous. Nous sommes avec Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine du Gard. Et nous sommes également avec Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Jacques Sapir, on en discutait avec Gilbert Collard tout à l'heure. Est-ce que vous pensez vraiment que dans les décisions que la France donne l'impression de subir, eh bien le personnel politique français est irréprochable? Est-ce que aussi tous ces aspects négatifs de l'Europe, toutes les décisions subies par la France en Europe, eh bien c'est pas simplement aussi et d'abord la faute du gouvernement français avant que ce soit la faute de l'Union européenne?
En fait, on ne peut pas séparer les deux. Il y a à l'évidence les fautes du personnel politique français, mais il y a aussi des fautes qui sont très lourdes de la part du personnel politique européen. Le fond du problème est le suivant. Est-ce que le personnel politique français est prêt, sur un certain nombre de points, à dire « là, sur ces points, nous ne transigerons pas » et si, d'une certaine manière, ça doit mettre en cause le fonctionnement de l'Union européenne, si on doit bloquer l'Union européenne, eh bien nous bloquerons l'Union européenne vous devez nous écouter. Cela, le personnel politique français, que ce soit les gens de l'ex-UMP ou que ce soit les socialistes,
ou que ce soit la gauche,
ont été strictement incapables de tenir ce discours. Il faut se souvenir quand même de ce qu'avait fait le général de Gaulle. C'était à l'époque dans la communauté économique européenne, hein, si vous voulez, c'était le marché commun. Bon, il a pratiqué pendant 18 mois la politique de la chaise vide. Il a, d'une certaine manière, paralysé la structure de l'Union européenne et il a, d'une certaine manière, contraint les autres pays à venir à un compromis avec la position française. Or, à partir du moment où on dit le premier de nos soucis, c'est que l'Union européenne fonctionne, et après, nous allons chercher à faire valoir nos arguments, eh bien, on se met dans une position d'emblée d'infériorité, on se met dans une position qui est d'emblée une position de soumission, et ça, évidemment, c'est une stratégie qui est à tous les coups perdante.
Nos gouvernants, les gouvernants français sont de mauvais négociateurs. C'est ce que vous,
Alors, c'est ce que vous nous dites.
J'ai dû aller vite parce qu'on va arriver au.
À un moment donné, on est prêt à casser l'Union européenne si l'on ne nous écoute pas. Mais il faut aussi comprendre que, d'une certaine manière, l'Union européenne, elle, fonctionne, si vous voulez, pour produire ce résultat, et aujourd'hui nous avons 28 pays dans l'Union européenne, 28 pays,
peut-être
c'est quand même
demain.
Extrêmement important, ce qui veut dire que aujourd'hui vous trouverez toujours un groupe de pays, un certain nombre de pays qui vont dire « Ah non, la France propose ça, ben nous on n'en veut pas ». Et à ce moment-là, M. Juncker ou M. Barroso, ils ont évidemment beau jeu de dire « Ah ben écoutez, messieurs les Français, vous n'avez pas réussi à convaincre les 27 autres pays, ce n'est pas possible ».
Mais alors, Jacques, c'est bien,
on ne peut pas exiger d'un pays qu'il convainque l'ensemble des autres pays. Donc, ce qu'il faut dire, c'est bon, à un moment donné, il y a des points de désaccord, et bien très bien, vous faites comme vous le voulez, et nous faisons comme nous le voulons.
Merci Jacques Sapir. Merci Jacques Sapir. Je vais redonner la parole à Gilbert Collard parce qu'on arrive à la fin. Je suis navré, Jacques Sapir. Gilbert Collard, très rapidement. Alors effectivement, on a l'impression quand on écoute Jacques Sapir que la France est un peu seule contre tout le monde finalement dans cette
comme
Union
vous.
Européenne. Mais oui, ça c'est le principe de mon émission, donc ça j'ai choisi. Bon. Mais effectivement, pourquoi on n'arrive pas non plus à se mettre d'accord rapidement avec des pays qui nous ressemblent peut-être davantage que l'Allemagne, je sais pas, l'Italie, l'Espagne par exemple?
Mais parce que chacun joue à l'intérieur d'une structure juridique apparente son propre jeu. Voilà.
Et la France joue moins bien son jeu.
Et la France, un peu à cause du reste de l'application stricte des règles administratives, joue moins bien son jeu. Mais c'est
Merci.
Une Europe des tricheurs.
Merci Gilbert Keller. Je vous aurais laissé le mot de la fin. Vous auriez pu dire Europe des tricheurs. Soyez rassurés, personne n'a triché dans le sondage de Seul contre tous, puisque vous remportez avec Jacques Sapir ce sondage. Quitter l'Europe, c'est l'exemple à suivre, manifestement pour les auditeurs. 79% d'entre eux qui ne sont pas d'accord avec moi. Merci à vous, Jacques Sapir, directeur d'études à l'EHES. Et auteur du livre Souveraineté, laïcité chez Michalon. Et merci à vous, Gilbert Collard, député du Rassemblement Bleu Marine dans le Gard.